9h40 minutes, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont pris le temps de manifester leur solidarité aux professionnels en soins et aux travailleuses de la résidence Angélica, qui est une résidence, en fait un CHSLD privé conventionné. Ils se sont réunis devant l'édifice et sur le boulevard Gouin. Tout ça, bien sûr, pour mettre en lumière, et c'est assez bizarre hein, pour ce qui est des tableaux et des chiffres qu'on nous donne, là. Le nombre de patients infectés, le nombre de patients qui sont décédés, ça varie énormément. Et je vais en parler avec la présidente du syndicat, qui est une infirmière, donc, à ce CHSLD qui est situé à Montréal-Nord. Il s'agit de Mme Judith Germain. Mme Germain, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, je veux parler du portrait général. La résidence Angélica, donc, je l'ai dit, c'est à Montréal-Nord, c'est privé conventionné. Il y a combien de bénéficiaires qui se trouvent dans ce centre?
Présentement, nous avons 345 lits, mais vous comprendrez, avec les décès qui a eu lieu, ça a diminué de beaucoup. On est rendu à peu près à 200-255 lits
et,
environ.
OK. Il y a combien de résidents qui sont infectés?
En date d'aujourd'hui, le dernier rapport que j'ai eu de la direction, c'est 103 résidents qui sont positifs et 59 patients qui sont décédés de la COVID.
Et ces données-là ne correspondent pas à ce qu'on semble avoir venant de d'autres sources. Et ce n'est pas le seul établissement. C'est comme si c'était difficile d'avoir le portrait juste, la réalité du centre en question.
Oui, justement, sur le site du gouvernement, c'est nullement comparable avec les chiffres que nous autres, on a sur le plancher et les chiffres qui me sont rapportés par l'employeur. Évidemment, on se dit, est-ce que c'est à cause de ça qu'on n'a pas eu assez d'aide? J'ai fait une sortie à TVA il y a quelques semaines, justement avec un cri d'alerte disant qu'on avait besoin d'aide, mais malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Parce qu'après ça, j'ai tout de suite réalisé que les chiffres qui sont publiés ne sont pas nécessairement les chiffres qu'on a sur le plancher. Mais est-ce que c'est dû à ça qui fait qu'on n'a pas eu d'aide? Est-ce que c'est l'employeur qui n'a pas été chercher assez d'aide? Ça, je ne peux pas vous répondre. Tout ce que je sais, c'est qu'on est encore en train d'en souffrir sur le plancher. Puis, surtout nos professionnels en soins, on n'a pas de relève, on fait du temps supplémentaire obligatoire. On se fait mettre automatiquement des temps supplémentaires sur nos horaires. L'arrêté ministériel est déployé à 100%. Tout est coupé, les pré-retraites, les congés de nuit, les fériés, les vacances, on n'a plus rien là. On est à bout de souffle.
OK. Parlez-moi de vous un peu. Vous êtes infirmière. Parlez-moi de la tâche que vous avez à faire normalement dans le centre.
Moi, je suis une infirmière qui travaille habituellement le soir. J'avais 3 étages de 24 patients à chaque étage que je couvrais à moi-même. Et puis, moi, j'ai contracté le COVID le 25 avril. C'est là que j'ai été testée positive. Depuis lors, je suis encore à la maison. J'ai fait mes 2 tests de suivi qui ont encore sorti positifs. J'ai fait un autre test qui a sorti négatif, puis l'autre 4e est sorti positif. Je suis encore à la maison. Je vous dirais que ce n'est pas de tout repos que je suis à la maison parce que je travaille 24 heures sur 24 quasiment. Parce qu'on est en train de travailler avec des personnes âgées qui sont très vulnérables. Ça fait des années et des années qu'on le sait, des années et des années que le syndicat n'arrête pas de dire on est à court de personnel. On a subi une diminution de structure chez nous qui nous a complètement cassé le bras juste avant la pandémie. Ça, vous comprendrez que après la pandémie, ça a été encore pire pour nous autres. Puis, moi, tous ceux qui sont en maladie à la maison, comme je vous dis, c'est pas de tout repos parce que on a reçu quand même des lettres quand même de pression nous disant qu'il faut absolument qu'on donne notre autorisation pour que l'employeur aille dans notre dossier personnel de médecin pour prendre les résultats de COVID.
Mais juste comprendre une chose, Mme Germain. Là, vous avez été, donc vous avez eu la COVID, vous avez été testée positive. Après ça, vous avez eu d'autres tests, d'autres suivis positifs, négatifs. Là, finalement, vous êtes positif. Alors, vous êtes toujours en quarantaine. À quel moment, en principe, vous retournez travailler?
Je devrais retourner travailler lorsque je vais avoir 2 tests négatifs, un à la suite de l'autre.
OK. Et ce qu'on dit, c'est que, de ce que j'ai compris de certains experts, c'est que ce serait comme un, je vais prendre une image, là, mais comme un espèce de restant du virus là, qui serait toujours présent.
Toujours présent, oui, toujours okay. vivant.
Quelles sont,
précautions.
Ouais, quels sont les symptômes que vous avez eus? Comment vous avez su que vous aviez... c'est un test de aléatoire ou de routine, ou si vous aviez déjà des premiers symptômes?
Non, j'ai eu pas mal de symptômes au début. Moi, ça a commencé avec une énorme fatigue, mais la fatigue, je l'ai associée par la surcharge de travail. Fait que j'ai un petit peu mis ça de côté. Par la suite, je commençais à avoir un petit peu la voix enrouée un peu. Puis, je toussais. Puis, ensuite, j'ai commencé à avoir la fièvre, des courbatures. Fait que là, j'ai dit, non, on prend pas de chance. Fait que j'ai appelé. Puis je me suis fait tester, puis ça a sorti positif. C'est à ce moment-là que je l'ai su. Mais j'ai eu pas mal. J'ai perdu le goût et l'odorat. Jusqu'à présent, c'est pas encore revenu à 100%.
Parlez-moi du travail à l'intérieur. D'abord, au niveau du matériel de protection, que ce soit les blouses, que ce soit les masques, visières, êtes-vous équipé?
Je vous dirais, pour le moment, on est en baisse de stock encore. Mais au début, on avait un projet qui a été fait avant qu'on soit atteint comme qu'on est maintenant. On avait ouvert une zone, disons, une zone tiède, qui a une partie de zone chaude. Cette zone-là, on recevait les admissions qui arrivaient de l'extérieur. Ces admissions-là n'étaient pas nécessairement testées à l'extérieur. Il fallait qu'on les garde en quarantaine chez nous pour 14 jours. Mais on avait du personnel spécifique pour travailler dans ce département-là. Moi, en tant que syndicat, j'ai été vérifiée, j'ai vu le département qui était vraiment très bien. C'était une très bonne initiative dans le début. Là, quand j'ai été, normalement, quand on est en quarantaine de 14 jours, il faut se protéger. Les employés se protègent parce que les employés se promenaient d'un département à l'autre. Je suis arrivée, il n'y a personne qui portait des masques. J'ai trouvé ça vraiment aberrant. Suite à ça, là, j'ai posé la question s'il n'y avait pas de masque. On m'a dit que ce n'était pas nécessaire d'avoir des masques. C'est beau. Là, quelques jours après, il a commencé à avoir des cas. Puis, dans ce département-là, il y a eu 3 personnes tombées positives. Ça, c'est des personnes qui ne portaient pas de masque en travaillant avec ces personnes-là.
Et ça, c'est vers quelle période à peu près? C'est au début? C'est au mois d'avril?
C'est au début. C'est au mois de mars.
Mois de mars. OK.
Oui. C'est là que ça a commencé à chambouler. Puis, j'avais du personnel qui partaient d'une zone chaude pour aller travailler dans les zones froides. Fait que ça a comme déboulé. Puis à un moment donné, ils ont dû fermer ce département-là pour rapatrier tous les patients vers les autres unités régulières. Vous comprendrez que ça a été fait un dimanche. Il n'y avait pas de bras, il n'y avait pas grand monde pour nous aider à faire cette transfert-là. Une vingtaine de personnes, on parle d'une vingtaine de personnes qui ont été transférées. Fait que ça s'est fait un petit peu chaotique. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est là aussi que, de façon non sécuritaire que ça a été fait, est-ce que c'est là que ça s'est déclenché aussi? On peut pas savoir. Mais je sais que suite à ça, il y a eu pas mal de cas par la suite.
Mais si la protection était parce qu'on jugeait pas que c'était nécessaire, ou en tout cas, on n'avait peut-être pas les masques requis, là. Mais tu sais, quand on dit aux gens, le masque est pas nécessaire, puis qu'on se promène d'une zone à l'autre, avec des gens qui sont asymptomatiques, puis qu'on se retrouve avec des positifs assez rapidement. C'est pas pour rien là, qu'on s'est retrouvé avec 103 résidents infectés, puis malheureusement 59 décès. Là.
Exactement. Puis, je vous dirais, M. Arcan, on n'était pas préparé pour ce genre de situation parce que ça fait un an et demi qu'on n'a pas d'infirmière en prévention des infections. Fait que on avait aucune base. On a une DSI qui était toute seule. Pourquoi? Parce que on avait 5 chefs d'unité, ils sont tous tombés malades. Fait qu'elle était rendue toute seule, sans nécessairement avoir de l'aide pour la supporter. Elle a eu de l'aide un petit peu plus tard, mais c'était déjà trop tard. Le mal était déjà fait. Est-ce que l'aide n'a pas été demandée? Je trouve que c'était une charge trop pesante pour une personne. On aurait dû avoir plus d'aide que ça pour nous supporter là-dessus. On n'était vraiment pas bien préparé pour le virus.
Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bon retour au travail pour vous bientôt.
Merci.
Merci, au revoir. Judith Germain est infirmière au CHSLD privé conventionné Angelica. C'est à Montréal-Nord et présidente aussi du syndicat local. Mais c'est important de l'entendre sur cette réalité du départ. Tu sais, on parlait tantôt, est-ce qu'il faut avoir une commission d'enquête? Pas prêt. pas d'infirmière spécialisée en infection dédiée à ça. Au début, oui, on avait une zone, puis après ça, ça s'est mis à se promener avec des gens pas de masque, des gens asymptomatiques, puis est arrivé ce qui est arrivé, puis c'est comme ça que ça a chamboulé, puis qu'on s'est retrouvé avec autant, malheureusement, de cas de gens infectés, mais surtout décédés. On va faire une courte pause, puis on revient en conclusion. Ramasser des affaires, tout de suite après ceci.